Le tour du monde en 80 jours, par Julien.
Chapitre 3, où s'engage une conversation qui pourrait coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30. Et, après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche, et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reforms Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors d'œuvre, un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, et d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cette excellente thé spécialement recueillie pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupait Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec l'adjonction de Royal British Sauce. À 6h20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reforms Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart. Les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin. Le brasseur Thomas Flanagan. Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. Personnage riche et considéré même dans ce club qui comptait parmi ses membres des sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, » demanda Thomas Flanagan, « où en est cette affaire de vol ?»«
Eh bien, » répondit Andrew Stuart, « la banque en sera pour son argent. »«
J'espère, au contraire, » dit Gauthier Ralph, « que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. » Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement. Et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper.
« Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stuart.
« D'abord, ce n'est pas un voleur, » répondit sérieusement Gauthier Ralph.
« Comment ce n'est pas un voleur ? Cet individu qui a soustrait 57 000 livres en banknotes, environ 1 375 000 francs. »
« Non. » répondit Gauthier Ralph.
C'est donc un industriel ? Dit John Sullivan.
Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman.
Celui qui fit cette réponse n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant. Le 29 septembre, une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 50 000 livres, avait été prise sur la table du caissier principal de la Banque d'Angleterre, à qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement. Le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable. Que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement et pour ainsi dire à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte ceci même. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir plus prise un lingot d'or pesant 7 à 8 livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais Le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas. Et quand la magnifique horloge posée au-dessus du Drawing Office sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres dans le compte profit et perte. Le vol, bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2 000 livres, environ 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements qui devaient fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué qui allait et venait dans la salle des paiements du théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman. Signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police. On ne s'étonna donc pas d'entendre les membres du Reforms Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stuart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist. Stuart devant Flanagan, Valentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais, entre les robes, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, répondit Ralph. Il n'y a plus un seul pays dans lequel il ne puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ?»« Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart. Mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. » La discussion fut suspendue pendant le rob, mais bientôt Andrew Stuart la reprenait en disant « Comment autrefois? Est-ce que la terre a diminué par hasard ?»« Sans doute, » répondit Gauthier Ralph, « je suis de l'avis de Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. « À vous de jouer, monsieur Stuart, » dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu, et la partie achevée. Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois. En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours, depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Highway. Et dont voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont-Cenis et Brindisi, Railway et Paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, Paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, en Chine, Paquebot, 13 jours. D'Hong Kong à Yokohama, Japon, en Paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, Paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railroad, 7 jours. De New York à Londres, en paquebot et railway, 9 jours. Soit un total de 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui par intention coupa une carte maîtresse, mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements et... Tout compris, dit Phileas Fogg, en continuant de jouer. Car cette fois, la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, dit Andrew Stuart. Ils arrêtent les trains, ils pillent les fourgons, ils scalpent les voyageurs. « Tout compris, » répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajoutant « Deux à tout mettre. » Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, Monsieur Fogg, mais dans la pratique aussi, Monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve, » s'écria Stuart. « Mais je parierais bien 4 000 livres, 100 000 francs, qu'un tel voyage, fait dans les conditions, est impossible. » « Très possible, au contraire, » répondit Monsieur Fogg. « Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours ?»«
Oui. »«
Je le veux bien. »«
Quand ?»«
Tout de suite. »« C'est de la folie !» s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. « Tenez, jouons plutôt. »«
Refaites alors, » répondit Phileas Fogg,
« car il y a mal donne. » Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table. « Eh bien oui, Monsieur Fogg, » dit-il, « oui. Je parie 4 000 livres. »«
Mon cher Stuart, » dit Fallentin, « calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »«
Quand je dis je parie, » répondit Stuart, « c'est toujours sérieux. » »«
Soit, » dit Monsieur Fogg, puis se tournant vers ses collègues, « j'ai 20 000 livres, environ 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. »«
20 000 livres ?» s'écria John Sullivan.
« 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre. »«
L'imprévu n'existe pas. » répondit simplement Phileas Fogg.
Mais monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps.
Un minimum bien employé suffit à tout.
Mais pour ne pas le dépasser, il faudrait sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer.
Je sauterai mathématiquement.
C'est une plaisanterie.
Un bon anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg.
Je parie 20 000 livres. Contre qui voudra, que je ferai le tour de la Terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes.
Acceptez-vous?
Nous acceptons, répondirent messieurs Stuart, Fallentin, Sullivan, Fallagan et Ralph, après s'être entendus.
Bien, dit monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45.
Je le prendrai.
Ce soir même?
Demanda Stuart.
Ce soir même, répondit Phileas Fogg.
Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui le 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même, au Reforms Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir. Faute de quoi, les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme.
Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et il n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, il paraissait ému, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'il se faisait une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions.
7 heures sonnaient alors. On offrit à Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ.
« Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes.
« Je retourne carreau, » dit-il.
« À vous de jouer, monsieur Stuart. »